Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Le 1er septembre 1965, Le Corbusier venait de trouver la mort en se noyant dans la Méditerranée et André Malraux lui rendait alors cet hommage dans la cour carrée du Louvre.
Gloire trouve à travers l'outrage son suprême éclat. Et cette gloire-là s'adressait à une œuvre plus qu'à une personne qui s'y prêtait peu. Après avoir, pendant tant d'années, pris pour atelier le large couloir d'un couvent désaffecté, l'homme qui avait conçu des capitales est mort dans une cabane solitaire. Les baigneurs qui rapportèrent le corps du vieux nageur ignoraient qu'il s'appelait Le Corbusier. Mais peut-être eût-il été content de savoir que lorsqu'il le voyait chaque jour descendre vers la mer, il l'appelait l'Ancien.
C'est-à-dire que Le Corbusier, on pouvait l'appeler de différentes manières. Peintre, sculpteur, poète, Le Corbusier tout de même a été l'architecte visionnaire que l'on sait, travaillant sur la lumière, la nature, les proportions, avec un maître mot, l'ordre. Là où naît l'ordre, naît le bien-être, disait-il. Mais quelle est donc la place de l'homme et de la vie dans ses constructions, dans ses plans, dans ses maquettes? André Malraux préférait à la formule de Le Corbusier, une maison est une machine à habiter. Cette autre formule de l'architecte, la maison doit être l'écrin de la vie. Alors entre ces deux définitions, bien d'ambiguïté chez Le Corbusier qui continue de nous faire réfléchir aujourd'hui. Quel est son projet pour l'homme et pour la société dont il veut construire le décor? Vous le savez, c'est ouvert au Centre Georges Pompidou, une exposition sur Le Corbusier. Le Corbusier, mesure de l'homme, de très nombreuses biographies, de nombreux ouvrages avec ce cinquantenaire, interroge aussi la portée politique de l'architecte. Et puis un livre est sorti, celui que nous avons retenu parce qu'il nous a tout simplement plu. Il s'agit du Un Corbusier de François Chalin qui ne se présente pas d'ailleurs nécessairement, ni même comme une sorte de biographie. Il est publié dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil. Bonjour François.
Bonjour Chalin.
On sait que vous avez animé jusqu'en 2012, longtemps, l'émission Métropolitain, l'émission d'architecture de France Culture, et puis donc auteur de ce Un Corbusier, paru au Seuil au mois de mars. Et avec vous, pour vous porter, qui sait, la contradiction, les questions, Monique Elleb. Bonjour Monique Elleb.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de l'habitat, vous êtes chercheuse à l'école d'architecture de Paris Malaquais, et vous publiez un petit livre que j'ai, voilà, qui est là, et qui s'appelle Les 101 mots de l'habitat à l'usage de tous chez Archibooks. Et puis nous avons notre architecte témoin, vous savez, comme les maisons témoins, c'est Olivier Palâtre qui a vu l'exposition à Beaubourg, qui a lu François Chalin, ainsi que vous, Monique Elleb. Alors on va peut-être tout de suite aller au droit, au sujet qui a fait beaucoup de polémiques et coulé beaucoup d'encre ces jours derniers autour de Corbu, François Chalin, c'est de savoir que faut-il répondre à la question que vous posez vous-même dans votre livre, Un Corbusier. Le Corbusier était-il fasciste?
Oui, c'est une question à laquelle je ne réponds pas. C'est une question qui s'est répandue comme une rumeur. Il y a à l'heure d'aujourd'hui, je crois, 230 articles qui parlent de mon livre dans 31 pays différents qui tous posent cette question en termes tous plus emphatiques et plus absurdes. C'est un très gros livre que mon livre, c'est un livre d'essence plutôt littéraire, hein. C'est une sorte de caractère de Le Corbusier un peu global. Il se trouve, parce que ça n'avait pas été fait beaucoup, que j'ai creusé un peu particulièrement, ça fait peut-être le cinquième du livre, le sixième du livre, la question de ces idéologies dans l'entre-deux-guerres. C'est important ce qui constitue un caractère, la question idéologique. Ce que je peux dire, c'est que Le Corbusier, dont on n'a pas du tout la preuve qu'il ait été encarté dans aucun parti, a, en revanche, été dans un groupe d'amis qui sont ses amis, qui sont, on pourrait dire, ses seuls amis ou ses amis les plus proches avec qui il vit, rue Jacob, avec lequel il déménage ensuite en 32 dans le même immeuble qu'il vient de construire, rue Ningessé et Colli. Et ces gens sont les créateurs d'un parti, du premier parti fasciste français, Le Faisceau. Alors, ils sont dans Le Faisceau, ensuite ils créent ensemble une revue qui s'appelle Plan, qui est dirigée par un jeune homme qui s'appelle Philippe Lamour, qui a parfaitement reconnu qu'il avait été fasciste. Il ne peut pas faire autrement, puisque certains de ses livres se terminent par « Nous sommes fascistes » ou « Je suis fasciste ». Puis il crée un autre journal un peu clandestin qui s'appelle Prélude. Il n'y a plus que 2 exemplaires à la Bibliothèque Nationale, sur 17 qui sont parus. Il n'y en a plus aucun à la Fondation Le Corbusier. Donc c'est une chose embarrassante, puisqu'on s'en est débarrassé de ce journal. Et dans ce journal, il y a 4 membres du comité central, Le Corbusier, ses 2 amis fascistes, Winter et Lagardelle, un médecin et un ingénieur des Ponts et je sais. Et puis, Lagardelle, j'ai dit Lagardelle, mais c'est Pierrefeu, l'autre. Et puis Lagardelle, qui n'est pas là parce qu'il est à Moscou. Il est à... c'est un lapsus. Il est à Rome, chez Mussolini. Oui. Donc c'est un groupe plus ou moins clandestin, qui est un comité central dont fait partie Le Corbusier. Mais ce groupe publie déjà en 35-36 des articles pour expliquer pourquoi le mot fascisme ne leur convient pas. Alors, pour des raisons, en fait, surtout de géostratégie. Ils veulent définir un mouvement français qui est distinct de Mussolini, même si certains d'entre eux travaillent chez Mussolini pour Mussolini, et qui en tout cas n'a rien à voir avec le nazisme allemand fondé sur la race. Donc la race ne les concerne vraiment pas bien, pas beaucoup. Donc voilà une situation un peu compliquée. Il est dans ce groupe. Ce groupe est secret. Ce groupe a des réunions dont on sait presque rien, mais sur lesquelles il y a quelques bribes de témoignages par d'anciens membres. Et puis ensuite, ils sont à Vichy pendant 18-20 mois, selon les gens. Donc voilà, c'est donc une personne qui, pendant 20 ans, fréquente presque exclusivement, sauf quand il veut avoir des relations avec le Front Populaire pour des raisons de commande, essentiellement, fréquente presque essentiellement un petit groupe de gens, membres à l'origine du faisceau.
Donc ça n'est pas la belle, au fond, qu'il ait sa carte du parti fasciste pour être fasciste, finalement.
Pour moi, il est pleinement... La question n'est pas tellement là. La question est de savoir si ça joue sur son architecture. Moins sur son architecture en tant que... Quand il construit des pavillons, des maisons, des choses comme ça, mais sur son idée de l'ordre urbain, notamment. Les fascistes ont été extrêmement fascinés par les plans, parce qu'ils sont un peu concomitants. Le plan pour la ville de 3 millions d'habitants de 22, et surtout le grand plan voisin de Paris, qui consiste en gros à détruire Paris pour le remplacer par ce qu'il appelle lui-même une plaque, ouais, dans laquelle 3 ou 4 monuments historiques sont conservés, Notre-Dame, à votre gauche, le Palais-Royal, à votre droite, la place des Bauges, et puis là-dedans des systèmes d'autoroutes et de gratte-ciel, tous à la même hauteur, une certaine idée des hiérarchies, de l'ordre, de la mise en condition de la vie humaine. Ou quand, dans tel ouvrage qui est fort célèbre, qui s'appelle La ville radieuse, il explique que, comme on va vers une civilisation, il ne parle pas encore de civilisation des loisirs, comme feront des Dumasiers après la guerre, mais il sent déjà que les horaires de travail sont un peu encadrés, donc il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas à l'usine d'un journée. Que va-t-on faire de ces gens? Donc il faut développer des espaces verts et surtout des stades pour occuper la force de ces gens.
Alors, mais comment expliquez-vous, cela dit, que tout de même, ce thème-là, cette question-là de Le Corbusier était-il fasciste, ait suscité autant d'articles et quand même quelques petites polémiques de par le monde, alors que tout de même, ça n'était pas non plus totalement inconnu, biographie. C'est pas un secret.
Si, c'est secret. Les gens se doutaient que, les gens qui avaient quelques ouvrages de Le Corbusier, Destin de Paris.
Vous le saviez ou vous ne le saviez pas?
Mais j'ai des raisons personnelles de le savoir. Voilà, parce que, bon, j'ai été mariée 25 ans avec Jean-Louis Cohen, qui a effectivement travaillé aussi sur cette question, mais pas du tout de façon aussi approfondie que François, qui n'en a pas fait un livre, mais qui a écrit quelques textes il y a une quinzaine d'années, et qui, il y a 3 ans, a été contacté par Zurich, pour savoir quelle était la réalité de cette position de Le Corbusier.
Et vous racontez notamment quand même que les choses sont mises à jour, même si vous ne partagez pas ensuite après ce qu'il a continué à en faire, mais avec notamment un écrivain suisse, Daniel de Roulet, qui a publié...
Oui, Daniel de Roulet a fait une petite chose amusante, qui a fait un énorme scandale. Voilà. Il est allé sur les traces de Le Corbusier à Vichy, et il a fait une petite œuvre littéraire très courte, de 20 ou 30 pages, en disant « Ah, mon maître, parce qu'il est architecte de Roulet. Mon maître m'a totalement déçu, je vais à Vichy, cette ville grise, je découvre ça. » Il n'a pas découvert grand-chose, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas beaucoup travaillé Roulet à cette occasion-là, mais ça a suscité en Suisse un débat considérable, comme à nouveau mon livre, et les deux autres qui paraissent, puisque certains journaux, à nouveau en Suisse, demandent qu'on interdise le billet de 10 francs à son effigie.
Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut interdire le billet de 10 francs à l'effigie de Le Corbusier?
Je trouve que c'est absolument absurde, je trouve qu'il ne faut pas débaptiser les noms de rue, il faut prendre ce type dans sa complexité, mais déjà, faut admettre cette complexité, ce qui est très difficile dans le cadre d'une sorte de dieu vivant. Parce que les architectes qui se réclament de lui ou qui ne se réclament pas, mais qui le chérissent immensément, sont totalement troublés par ça. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse être ceci et cela, qu'on puisse être
un grand génie. On a déjà eu tout de même ces mêmes débats-là avec Céline et d'autres cas de figure.
Assouline me disait que quand il a fait son Simenon énorme il y a quelques années, il avait eu dans l'Espresso ou dans le Corriere della Sera en titre Simenon fasciste, ce qui était totalement absurde, même s'il y a deux doigts d'antisémitisme parfois petits chez Simenon comme chez tout contemporain,
Mais sauf que deux doigts, c'est déjà trop, on vous dira tout de même.
C'est François pas trop, Chalin, vous pouvez pas écrire l'histoire.
Non, mais chez Le Corbusier, en tout cas, il y a plus que deux doigts. Vous avez retrouvé des dessins, il y a des mots, des textes, pas formidables.
Des textes, des lettres à sa mère.
Il y a des éloges d'Adolf Hitler disant qu'enfin, Adolf Hitler est un grand homme parce qu'il va réintroduire un peu du sang, hein, dans les matériaux et la reconstruction d'une Allemagne à venir.
Il y a des mecs qui sentaient mauvais, dit-il. Ouais. Ça, c'est une grosse erreur de Corbusier, cette phrase-là.
Olivier Palâtre, jeune architecte qui fête les yeux de l'amour à Le Corbusier, vous les faites toujours autant après la biographie de François Chalin ou pas ?
Moins, beaucoup moins, c'est sûr. Mais plutôt le fait que être architecte, normalement, c'est construire pour les autres, être assez généreux. Et c'est vrai que ça marche pas beaucoup avec le terme de fascisme, quoi. Et le fait de... Bon, l'ordre, bien sûr, est présent dans tous ces projets. Donc ça peut marcher avec le terme de fascisme, mais c'est avant tout la générosité, quoi. La générosité pour les autres, et ce qu'on retrouve pas dans ce terme-là.
Monique Eleb.
Pour les grands projets que concevait, et notamment urbains, que concevait Le Corbusier, il avait besoin d'un pouvoir fort. Et je pense qu'à chaque fois qu'il a eu l'impression qu'il pouvait conquérir une commande avec un pouvoir fort, il était dans ce sens-là, il allait dans ce sens-là. Mais il est allé dans tous les sens, d'une certaine façon. C'était quand même une girouette en termes politiques.
Mais c'était une girouette parce qu'au fond, et ça donne une image, alors là, sur ce coup-là, du métier d'architecte François Chalin, qui est assez détestable, il faut bien
mais
le dire.
Mais c'est un métier détestable
ben oui,
pour
parce
partie.
On peut noter que tout de même, au fond, vous dites...
comme le nôtre.
Peut-être pas autant que même, parce que là, non, puisqu'il s'agit d'avoir des contrats, donc quelle que soit la couleur politique, peu importe qui prendra la décision, de mettre en branle les chantiers. Donc, il va faire la cour, oui, à toutes les dictatures possibles et imaginables pour avoir des contrats.
C'est ce que les architectes ont toujours dit. Le Corbusier était un opportuniste, il n'y avait pas d'idée politique et il allait où allaient les contrats. C'est pas ça. Pour moi, Le Corbusier a une idéologie, une philosophie très, très bien structurée, assez transparente, souvent affirmée, et cette idéologie, elle est toujours dans le sens de l'hygiénisme, de l'ordre et de la répression, en quelque sorte, des pulsions humaines, notamment des pulsions prolétariennes.
D'une sorte de pureté, mais avec quoi est-ce que c'est une idéologie qui se résume à ce qu'il disait au fond du blanc de chaud, du lait de chaud, que c'est la richesse et du pauvre et du riche. Mais est-ce que ça rattrape les choses ?
C'est une magnifique formule, il y a le sens de formule extraordinaire. Mais ce sera un très grand architecte du logement social aussi dans l'après-guerre. Hein. C'est pourquoi, de façon un tout petit peu caricaturale, j'ai découpé mon livre en deux moitiés, Corbeau
et Fada.
Et Fada.
Oui.
Alors, avec l'idée qu'à Marseille, dans l'après-guerre, se déploie quelque chose de plus généreux, pour employer le mot.
Dans cette biographie, quand même, on va dire, de chemin de traverse, mais très précis sur Le Corbusier, François Chalin, oui, il y a ces chapitres, Corbeau et Fada. Il y a même une allusion à Sartre, l'enfance d'un chef. Corbeau, l'enfance d'un chef, on pense à Clouzot. On pense évidemment à Sartre, mais on pense à ce que veulent dire ces films qui parlent, au fond, quand même, d'une période assez noire de notre pays. Mais Corbeau, après tout, il n'a jamais dénoncé personne, lui, Le Corbusier.
C'est pas dans ce sens-là que j'appelle Corbeau, hein, quand même. Ouais. C'est dans le sens que lui-même a un visage de Corbeau qui signe Corbeau,
sauf que Corbeau, et moi, on pense aussi forcément fatalement à Clouzot quand vous évoquez la période que vous évoquez.
Je pense pas qu'il ait dénoncé, mais enfin, je sais rien, non, il n'y a pas de preuve, en tout cas, il n'y a pas aucune raison de le penser. Pour le moment.
Est-ce que, du coup, aussi, vous estimez, en même temps que la polémique n'a pas de sens, dans la mesure où, comme vous le dites dans votre livre, d'abord, vous dites par précaution que vous ne voulez pas attenter à la légende de Le Corbusier.
Que j'aime cette légende,
Vous écrivez très précisément, ceci n'est pas un procès, et puis après tout, Corbu est un sujet trop bétonné, donc allons voir tout de même ce qu'il y a en arrière-plan. Est-ce que Corbu, c'est une manière aussi de décrire, comme vous le dites, la France comme un paysage irrégulier, marécageux et tragique ?
Oui, parce que nous sommes, en tant qu'architectes ou historiens d'architecture, bercés dans des sagas dont on a hérité. Donc on essaie de casser ces sagas, ces effets générationnels, le modernisme, le postmodernisme. Parfois on est totalement saisi quand on découvre que l'architecte Philip Johnson est créateur à ses frais d'un parti nazi américain. Bam, il y a 20 ans, on est saisi. Quand on découvre que, et qui va visiter les shtetls détruits, on voit plus de juifs et qui s'en réjouit dans des courriers. Quand on découvre que Mies van der Rohe, le plus grand archevêque de la démocratie allemande, aurait voulu être archevêque du Reich, on est saisi. Donc vous voyez, c'est par rapport aux légendes qu'on nous a prises. On a besoin de ces sagas, on a besoin que Le Corbusier soit un mythe, un type prodigieux, parce qu'il est prodigieux. Parce que nous avons des milliers d'images de lui qui sont accumulées, il y a des œuvres, tout ça, c'est une incarnation d'une chose tout à fait extraordinaire. Alors, il est assez difficile de combiner ça et une connaissance plus intime du personnage. Mais cette connaissance, c'est romanesque aussi. C'est romanesque. La connaissance intime de Céline, qu'on a maintenant de façon considérable par les polémiques qui en sont nées, elle ne détruit pas un instant, à mon avis, le génie littéraire de Céline. Pas un instant. Elle le plonge dans quelque chose de beaucoup plus vaste qui est le monde et qui est son monde. Et en effet, pour répondre à votre question, la France, j'ai voulu décrire intensément ce qu'était la France de la politique, la France des archives dans ces années-là, que nous ne connaissions quasiment pas.
Olivier Palâtre ?
Non, non, le génie... Oui,
le
génie du Corbusier, oui, parfait, mais sur l'urbanité, après sur l'urbanisme, autant dans les maisons, autant dans les logements collectifs, mais sur l'urbanisme, j'ai beaucoup plus de questions dessus, de questionnements, parce que il y a un ordre qui est demandé, il y a une hiérarchisation qui est très forte, de dire il faut vivre là, il faut habiter là, et on se rend compte que maintenant c'est plus du tout cet urbanisme vers lequel on est tourné, hein. On est plutôt tourné vers un urbanisme de partage, d'appropriation, de mixité, qu'il a pas vu venir. Bon, bah après c'était une autre époque, totalement.
François Chalin.
Oui, bah bien sûr, ça c'est un jugement de génération.
Oui, bien sûr.
De notre génération. Ouais, notre génération ne vit pas comme il le voyait. Ouais. Mais il faut voir aussi que sa génération était face aux problèmes considérables des mal logés, des taudis, des villes qu'on appelait les grosses stades, qui nous paraissaient des Babylones, qui étaient effectivement pourries de maladies, d'alcoolisme, de difficultés circulatoires. Donc on peut comprendre à certains égards que le paysage mental était différent.
Vous avez vu bien sûr le film de Jean Epstein, Les Bâtisseurs, en 1937, sous le Front Populaire, qui décrit l'histoire au fond du bâtiment des cathédrales jusqu'aux grands ensembles. Et dans ce film, Le Corbusier, il dessine un tableau noir, ce qui fait l'essence de sa théorie.
Lorsqu'une société désire construire de nouveaux logis, c'est qu'un état de conscience nouveau est né, l'état de conscience d'une civilisation machiniste. Le mouvement est universel en tout pays. Qui a autorisé cette nouvelle architecture? Les libertés immenses apportées par les techniques modernes dans l'art de bâtir, l'acier et le ciment armé. Dorénavant, le postulat fondamental de cette révolution architecturale, autant que sociale, peut tenir dans les trois éléments qui ont, depuis l'origine des temps, conditionné la vie même des hommes, le soleil, l'espace, les arbres. Je place un homme sur son plancher. Je place un plafond, une surface de verre au-devant de lui, le pan de verre des immeubles modernes, l'œil de cet homme. Je place le soleil, je place l'espace, les arbres. C'est fini, le logis est conditionné.
Voilà donc un extrait du film Les Bâtisseurs de Jean Epstein. Il y a au moins une chose quand même qui peut nous faire aimer Le Corbusier quoi qu'il arrive. Il aimait le Brésil et il a eu une liaison avec Joséphine Baker.
Non, il n'a pas eu de liaison.
Il a cette liaison, il l'a pas.
Il prétend toujours qu'il. Vous n'avez pas.
Ils ont été assez potes quand même.
Mais non, ils ont voyagé ensemble en revenant de Rio. Il a dessiné nu, mais était tout
nu. De Rio, il peut s'en passer des choses à ce moment-là.
Non, il s'intéressait pas à la chair, certainement pas à la chair féminine en tout cas. Il s'intéressait qu'à la chair des corbeaux. Il n'avait aucune sensualité, Le Corbusier, dans ce sens-là.
Il avait eu tort.
Il n'a pas épousé un mannequin.
Il a épousé un mannequin.
Bon.
Joséphine Baker, hein, Brice Couturier.
Au Panthéon.
De quoi vous nous parlez à 8h15?
Je parle d'architecture totalitaire. Hein. Vous avez évoqué dans cette matinale, c'est pas une première partie de la matinale, les liens qui sont avérés entre Le Corbusier et un certain nombre de groupes fascistes avant la guerre, et puis avec Vichy, qui sont aussi tout à fait avérés. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer l'architecture totalitaire telle qu'elle se déploie à Rome sous l'influence de Mussolini, par exemple, et puis le rationalisme de Le Corbusier? Est-ce qu'il n'est pas une grande différence entre les deux? C'est ça que j'aurais demandé à nos architectes.